êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous sommes en ligne avec Aymeric Maudou, directeur général et fondateur de Lord of the Trees, une entreprise de restauration d'écosystèmes. Aymeric, bonjour.
Oui, bonjour Marianne.
Alors, pour simplifier ce que votre entreprise fait, vous agglomérez plusieurs technologies pour renforcer tout simplement la protection de l'environnement, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Nous avons commencé la compagnie il y a... On arrive sur les 5 ans de ça. On est basé à Sydney, on opère globalement. Et en fait, comme vous disiez, c'est un amalgame de plusieurs technologies, dont la robotique, les drones et l'intelligence artificielle pour aider à faire de la réforestation ou alors de la protection de l'environnement en utilisant la technologie pour le bien de la planète.
L'intelligence artificielle, les drones, les robots, tout ce dont vous venez de parler, on est à une époque où ça se développe énormément, on parle quasiment que de ça, mais ça fait encore peur, ces polémiques, il y en a qui sont absolument contre. Comment vous faites pour utiliser ces outils, ces technologies à bon escient et surtout quel est l'accueil ici en Australie?
Pour mettre un petit peu ce qu'on fait dans le contexte de nos opérations, si on considère donc, comme on a dit, les drones, les robotiques et l'intelligence artificielle comme étant ce qu'on appelle ici la high-tech, on travaille en symbiose avec ce qu'on appelle aussi low-tech. L-O-T-E-K, c'est un principe qui veut dire local, traditional, ecological knowledge, donc la connaissance du milieu et des pratiques par les populautés locales, notamment les populations, indigènes et aborigènes avec lesquelles on travaille. Donc, c'est pas juste de la robotique, de l'intelligence artificielle. Nous, la politique, en fait, qu'on a à Lord of the Trees, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle et les drones et la robotique pour le bien. Donc, on fait partie de deux associations, AI for Good, et une autre association s'appelle Drones for Good. En fait, c'est une charte dans laquelle on s'engage, nous, à utiliser justement les drones et l'intelligence artificielle pour faire du bien et non pas créer des choses qui pourraient nuire à la population ou aux animaux.
Très concrètement, pour que nos auditeurs comprennent bien, donc vous parlez de protection de l'environnement, vous parlez de reforestation, vous parlez de restauration d'écosystèmes. Comment elle fonctionne, votre entreprise, qu'on comprenne bien?
On facilite un service pour une entreprise ou un particulier qui a une grosse propriété ou un gros terrain et qui veut planter des arbres. Donc, soit restaurer un écosystème qui a été dégradé. Donc là, il y a les trois scénarios sur lesquels on se trouve actuellement. C'est une coupe de forêt qui a été faite illégalement. Donc, on a ce genre de problème beaucoup plus en Asie du Sud-Est. On travaille aussi énormément avec les gouvernements après qu'il y ait un feu. On en a fait l'expérience douloureuse ici à côté de Sydney il y a 4 ans de ça, avec des feux qui ont duré plus de 6 mois. Et le dernier, c'est quand les terrains ont été endommagés sévèrement. On est prêt à intervenir après ce genre d'événement, mais on n'a pas encore fait. Par contre, on a plus d'expérience avec les compagnies minières. Donc, quand une compagnie minière a fini son contrat, elle doit redonner la terre, en fait, aux peuples indigènes ou au peuple premier ici en Australie à qui ça appartient, et sont obligés par la réglementation de rendre la terre comme ils l'ont trouvée. Bon, on sait très bien qu'une fois que la mine est fermée, l'environnement est complètement différent de quand ça a commencé. Donc, en fait, on travaille énormément avec ces boîtes pour essayer de remettre en place, on va dire, l'écosystème sain qui se rapproche le plus à ce qu'il était avant qu'il ait été endommagé. Je vous explique un petit peu comment on travaille. Donc, c'est un processus de 4 étapes. L'étape numéro 1, on fait l'analyse du paysage. Donc, c'est là où on envoie les drones, c'est là où on récupère toutes les informations sur la topologie et tout ce qui a à voir au niveau géographique, au niveau du climatique et au niveau des sols. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, une fois qu'on a toutes ces données, on regarde au paysage qu'on essaye soit de recréer ou de protéger avec les espaces qui sont adjoignants à la zone dont on essaie de s'occuper. Donc, si dans le cas d'une mine, par exemple, on regarde aux forêts qui étaient là avant, les espèces qui ont été répertoriées, les espèces qui sont avoisinantes, et on va regarder maintenant que le paysage a été, on va dire, déformé, quelles sont les espèces qui vont pousser ou qui seront plus adaptées à pousser dans ce nouvel environnement. Et une fois qu'on a tout ça, en fait, on fait un amalgame des deux. On développe un plan qui va nous dire, bon, mais ces espèces, là vont plus être adaptées dans cette partie du terrain, et cette autre espèce, ces autres parties d'espèces vont être dans une partie différente. Et de là, on contacte les communautés, indigènes, donc les peuples premiers en Australie qui vivent dans ces terres, et on leur demande, on leur dit, bon, mais voilà les espèces qu'on a identifiées, est-ce qu'il y a d'autres espèces auxquelles on n'a pas pensé? La dernière chose qu'on veut, c'est introduire une espèce qui ne fait pas partie du landscape et qui pourrait devenir invasive. On a un partenariat avec une organisation basée en Suisse qui s'appelle Restore, un laboratoire de recherche, qui est un petit peu, on va dire, l'équivalent du Google pour tous les écosystèmes dans le monde. Et on fait en fait une validation de la sélection des plantes pour ce terrain particulier. Une fois qu'on a le feu vert de Restore en Suisse, plus le feu vert après du gouvernement, du ministère de l'Agriculture et des Forêts, c'est là où on prend contact avec les peuples aborigènes, les peuples premiers en premier, pour essayer de les impliquer dans la collection de graines endémiques. Donc ça, c'est pour les aider en fait et leur donner du travail. Et tout le reste, on fait partie en fait d'un groupe où on a accès à des banques de graines qui sont situées dans le monde entier, où dans lesquelles on arrive à avoir le reste des graines en fait qu'il nous faut. Donc en Australie, on travaille énormément avec les peuples premiers pour nous aider à préparer le sol. On évite en fait de remuer la terre parce qu'il y a un écosystème incroyable au niveau des bactéries, et donc on emploie les peuples premiers pour nous aider à s'occuper des herbes. Alors, on a une association avec une organisation très particulière ici en Australie qui s'appelle Firestick Alliance, une organisation de peuples premiers qui font ce qui s'appelle le cold burning du landscape. Donc, ils nous aident en fait à préparer les terrains en brûlant à une période très particulière les mauvaises herbes afin que nous puissions faire la plantation. Donc, ça, c'est l'étape numéro 3. Et l'étape numéro 4, c'est tout ce qui est la surveillance en fait des forêts une fois qu'on a planté pendant les 25 ou les 30 prochaines années.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Et ça fonctionne? C'est quoi vos premiers résultats?
On a une forêt test qui se trouve dans une petite ville qui s'appelle Dowerin, qui est à 250 km à l'est de Perth et qui ne reçoit que 30 millilitres d'eau, enfin de pluie par an. Donc c'est un climat qui est considéré semi-aride. Les plantations qu'on a fait là-bas ont des résultats qui sont de plus de 75% de germination. Donc quand on extrapole en fait ces résultats dans des zones, plus on se rapproche de l'équateur, plus il y a de la pluie, on a des résultats qui sont au-delà de 80%, voire 85% quand on travaille avec des espèces tropicales.
Votre entreprise travaille bien au-delà de l'Australie. Vous avez des projets à travers le monde et vous ne faites pas que de la plantation de nouvelles graines. Quelle est l'étendue des missions de votre entreprise?
On est global, on est basé à Sydney, nos ingénieurs sont basés en Suisse. Au niveau des projets, on fait peut-être 50-50, donc 50% c'est vraiment de la restauration, on va dire pure et dure, des seed pods avec les drones. Le reste du travail qu'on fait, c'est de la protection environnementale dans des milieux qui sont, on va dire, soit difficiles d'accès. Donc, je vous donne un exemple. On a un projet en ce moment dans les Philippines avec un peuple indigène qui a identifié, il y a des arbres qui ont été coupés illégalement. Ils vivent dans une forêt qui est tellement grande, ils n'ont pas les moyens de faire la surveillance de toute la forêt. Donc, on met en place des systèmes qui nous permettent de regarder l'état de la forêt semaine par semaine à exactement la même heure. On travaille à ce moment-là avec des satellites. On a des projets qui ont à voir aussi avec des populations animales qui sont en danger. Donc, le projet sur lequel on est en train de bosser en ce moment est à Bornéo avec une organisation qui s'appelle OURF. La capitale Jakarta est en train d'être bougée de là où elle est, pour se retrouver en plein milieu d'une forêt, de la forêt équatoriale, de la forêt tropicale, pardon, où vivent les orang-outans. Et donc, on travaille avec OURF pour vraiment comprendre comment les populations locales d'orang-outans qui vivent dans ces forêts sont en train de se déplacer. Là, à ce moment-là, on travaille avec des drones qui sont équipés de caméras thermiques qui permettent d'identifier dans la canopée où se trouvent ces populations d'orang-outans et comment ils se déplacent dès que les engins arrivent pour couper la forêt. On a des projets ici en Australie, à côté de Byron Bay, avec des koalas, et on travaille aussi au Vanuatu pour aider des peuples premiers, pareil, à protéger leurs mangroves. Voilà. Donc, c'est un petit peu tout. On fait Et oui, comme je vous disais, 50% de la plantation et puis après 50%, on travaille vraiment avec dans l'environnement pour la protection et la sauvegarde de la biodiversité.
On est à une époque aujourd'hui où on peut avoir l'impression qu'on a atteint un point de non-retour dans la crise environnementale. Est-ce que si on vous écoute bien, si on lit entre les lignes de ce que vous nous dites, on peut avoir cette impression qu'en fait le point de non-retour n'a pas été atteint et que la reforestation, par exemple, c'est pas un projet trop ambitieux?
C'est une bonne question. Ben en fait, moi, depuis que je suis tout petit, je suis l'optimiste éternel. Donc, le verre est toujours rempli, il y a toujours l'eau dans le verre. Et il y a quelques années, il y a le Washington Post qui avait publié les résultats d'une étude. Il y avait 1,52 trillion d'hectares de terrain, en fait, qui sont déforestés. Donc, c'est-à-dire, c'est notre opportunité. C'est le marché, on va dire, sur lequel nous, on opère. Un hectare, c'est la taille d'un terrain de football. Cette masse, en fait, sur laquelle on peut planter des arbres aujourd'hui, c'est l'équivalent des États-Unis et de la Chine ensemble. Il y a de l'espace pour planter des arbres. Est-ce qu'on a atteint le point de retour? Moi, je suis persuadé que non. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec la nature et, en fait, la nature est extrêmement résiliente. Et je pense que si on fait tous des efforts, on arrivera justement à faire des améliorations dans la biodiversité et notamment dans les forêts. Il y a une cascade en fait de conséquences à faire le travail qu'on fait, notamment au niveau de améliorer la qualité de l'air, améliorer la qualité de l'eau, protéger justement les ressources ancestrales des peuples premiers avec lesquels on travaille, entre autres.
Et pour cela, vous estimez que les nouvelles technologies, la robotique, l'intelligence artificielle, c'est essentiel. Vous pensez que vous pourriez faire ce même métier aujourd'hui sans toutes ces technologies?
Ça serait possible, mais ça voudrait dire qu'il faudrait retourner à planter des petits arbres qu'on a fait pousser dans une nursery, et les planter à la main. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est le développement de ces technologies, de la robotique, de l'intelligence artificielle, font que on a moyen justement d'accélérer le processus traditionnel de la foresterie traditionnelle.
Merci beaucoup, Aymeric Modou. Je le rappelle, vous êtes le CEO et fondateur de Lord of the Trees, une entreprise de restauration d'écosystèmes à l'aide de nouvelles technologies. Merci, Aymeric.
Merci beaucoup, merci aux éditeurs.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.